présentation, je fais ça à la philosophe. Je précise tout de suite que je ne répondrai pas à la question, parce que c'est le seul avantage de ma discipline, je peux poser des questions sans y répondre. On n'a pas le droit de parler à des gens, on n'a pas le droit de faire des tests et tout ça, donc on a le droit de rester dans une bibliothèque, de poser des questions et de ne pas y répondre, et c'est exactement ce que je vais faire. Je précise aussi que je vais faire un peu deux ou trois raccourcis pour essayer de servir mon histoire. Philosophie. On n'a aucun avantage à part celui-là.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de PowerPoint.
Et voilà, on pourra discuter. Je n'avais pas percuté que la communication d'avant était sur l'hypnose. Je vais parler de Mesmer un tout petit peu. J'aurais pu imbriquer un peu plus les choses. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire vite et on va discuter. Ça sera... déjà, je vais essayer de commencer par clarifier mon titre, peut-on guérir pour les mauvaises raisons? Alors cette question est directement inspirée d'un travail d'Isabelle Stenger, philosophe des sciences, dans son texte Médecin et charlatan, que l'on peut trouver dans le livre Médecin et sorcier, coécrit avec Tommy Nathan et publié en 1995. Dans ce texte, Isabelle Stenger fait un constat. Je vais refaire une relecture de son texte à partir de mes propres questions, donc si vous l'avez lu et que vous n'êtes pas d'accord avec mes interprétations, c'est absolument normal. Il est fort difficile, son constat c'est qu'il est fort difficile de séparer le médecin d'une figure qui lui est très liée, qui est la figure du charlatan. Pourquoi? A priori, la distinction ne semble pas poser de difficultés. Le médecin détenant le savoir pour identifier les causes, agir en fonction grâce à ses connaissances, tandis que le charlatan, ne faisant que tromper et vendre ses médicaments, pourra au mieux ne rien faire et au pire aggravera l'état de la situation. Le médecin est censé guérir tandis que le charlatan non, c'est même à cela qu'on est censé les reconnaître et les distinguer. Dès lors, où est le problème? Le problème est que celui qui réclame la guérison en tant que preuve, c'est justement le charlatan. Et comme nous l'indique Isabelle Stengers, malheureusement pour nous, d'un point de vue épistémologique, la guérison ne prouve absolument rien. Il faut ici expliquer pourquoi, un tout petit peu, pourquoi la guérison ne peut pas être revendiquée comme preuve. Un des éléments de réponse qui est possible, c'est de se pencher du côté de Claude Bernard, qui dit dans son introduction à la médecine expérimentale, quelque chose de très juste, un médecin qui essaye un traitement et qui guérit ses malades est porté à croire que la guérison est due à son traitement. Souvent les médecins se vantent d'avoir guéri tous leurs malades par un remède qu'ils ont employé, mais la première chose qu'il faudrait leur demander, ce serait s'ils ont essayé de ne rien faire, c'est-à-dire de ne pas traiter d'autres malades, car autrement, comment savoir si c'est le remède ou la nature qui les guérit? C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la vix megat naturae, qui d'ailleurs, bizarrement, quand on la voit dans les textes aujourd'hui, on parle de cours naturel de la maladie et pas capacité à la guérison. Ce qui histoire naturelle de la maladie, natural course, voilà. Je soulève ça comme ça. Voilà. Donc l'erreur des médecins, selon Claude Bernard, est une erreur logique. Logique classique, post hoc, ergo propter hoc, après cela, donc à cause de cela, je donne un remède, il guérit, je suppose donc que c'est le remède qui l'a guéri, et c'est une erreur fallacieuse. Donc paradoxe, l'efficacité d'une thérapeutique ne semble pas pouvoir se déterminer à partir d'une guérison. Un autre élément de compréhension de cette question se trouve dans l'histoire du magnétisme animal. Dans son texte, Isabelle Stengers évoque l'affaire Mesmer comme étant un point clé de l'histoire de la médecine moderne. En 1784, Louis XVI met en place une commission via l'Académie des sciences pour investiguer les pratiques d'Anton Mesmer, qui vient d'arriver à Paris, qui a ouvert son cabinet, qui commence à avoir beaucoup de succès et qui commence à un peu inquiéter les gens. Pour replacer rapidement, si quelqu'un n'a pas entendu de Mesmer à un moment, Mesmer a théorisé le magnétisme animal en disant qu'on pouvait manipuler le fluide et magnétiser certaines parties du corps ou le corps en entier pour guérir des maladies nerveuses, de peau, etc. etc. Mesmer refusera de se plier aux propositions d'investigation de la commission, mais un de ses disciples français, Charles Deslon, acceptera lui d'accéder aux requêtes de l'Académie des sciences. L'Académie des sciences a donc envoyé une commission composée de la Dream Team de l'époque, Lavoisier, Benjamin Franklin, Bailly, astronome et maire de Paris, Guillotin aussi, et Jussieu. Je vais passer les détails de l'expérimentation. Le plus souvent, ça tend à faire croire à un sujet qu'il est magnétisé alors qu'en fait il ne l'est pas, ou qu'un magnétiseur dans la salle alors qu'il ne l'est pas, ou qu'un objet magnétisé en fait il ne l'est pas. Je vais juste prendre un exemple de mémoire d'une des expérimentations qui est assez intéressante. On a demandé à Deslon de magnétiser un arbre dans une rangée d'arbres. On lui a demandé aussi de choisir un sujet, en l'occurrence un enfant, qui est sensible au magnétisme. Et on fait embrasser, donc avec les bras, l'enfant, les arbres successivement dans la rangée. Plus il se rapproche du dernier arbre, plus il a chaud, plus il transpire, et en embrassant le dernier arbre, Il a une crise dans le magnétisme animal. C'était l'aboutissement de la sensibilité au fluide. Quand les gens le décrivent, ça ressemble un peu à un mélange entre une crise d'épilepsie et un orgasme. Et donc l'enfant, en attrapant le dernier arbre, a une crise, s'effondre, s'évanouit. Desselon est plutôt content du résultat, sauf que la commission, évidemment, avait déterré l'arbre, l'avait planté 50 mètres plus loin et l'avait remplacé par un arbre non magnétisé. Et donc, ils utilisent... les conclusions générales, les expériences sont à peu près toutes comme ça, et les conclusions générales sont que le fluide sans l'imagination est impuissant, alors que l'imagination peut produire les effets que l'on attribue au fluide. On arrive à ça. Les guérisons des patients magnétisés ne sont pas attribuables au fluide animal. Donc, ce que nous dit cette expérience, c'est que le corps malade, et a fortiori le corps qui guérit, n'est pas un témoin fiable. La guérison est anecdotique, elle ne prouve rien. Il ne nie pas les effets, il ne nie pas que l'enfant est réellement tombé dans les pommes, il ne nie pas que les gens ont réellement des crises, il nie que l'explication qu'il y a derrière, il nie la théorie, le cadre théorique derrière tout ça. Et c'est pour cela que la distinction, donc c'est parce que la guérison est anecdotique, que la distinction entre médecin et charlatan est compliquée pour le moindre. Ce que nous indique l'événement de 1784, c'est que la médecine doit obéir à un autre impératif que celui de la guérison, c'est celui de la rationalité. Une guérison doit nécessairement se suivre d'une explication validée scientifiquement. De cela, quand on fait une histoire un peu rapide, découleront alors les Claude Bernard, les Pasteur, etc. Et pendant 150 ans à peu près, la médecine va puiser dans le laboratoire, donc la physique, la chimie, la bactériologie, la physiologie, la pharmacologie, blablabla, pour légitimer ces thérapeutiques. À partir de ça, on va avoir le développement des thérapeutiques dites modernes, donc les antibiotiques, les vaccins. Avant de conclure sur ce point, il est juste intéressant de noter une chose, c'est que Mesmer a créé la théorie du magnétisme animal en laïcisant une pratique d'un exorciste autrichien qui s'appelait le père Johann Joseph Gassner. Et en fait, Mesmer avait montré qu'il pouvait obtenir les mêmes résultats que Gassner, mais sans la religion, en retirant la religion de l'équation. Or, ce que la commission montre qu'elle peut obtenir, la même chose, elle montre qu'elle a les mêmes effets que Mesmer, mais sans le magnétisme animal. Donc, tel est prix qu'il croyait prendre, tout ça, tout ça. In fine, donc, ce ne sont pas les guérisons qui sont niées ou les effets, mais la théorie qui est invoquée pour expliquer les effets. Ici, le magnétisme animal. C'est en ce sens que j'ai voulu poser la question, peut-on guérir pour de mauvaises raisons? Et là, apparemment, oui, on peut guérir pour de mauvaises raisons. Les gens ont guéri, mais pas pour les bonnes raisons. On pourrait alors se dire, problème résolu. Le médecin est celui capable de donner une explication scientifique à son remède ou même simplement au mal qu'il observe. Il n'est pas obligé de soigner, il n'est pas obligé de guérir pour qu'on le reconnaisse médecin. On pourrait presque dire qu'il n'est plus soumis à l'injonction thérapeutique, mais seulement une injonction de rationalité. Le médecin, s'il ne guérit pas, reste médecin. Le médecin peut simplement décrire, alors que le guérisseur et le charlatan, s'il veut continuer à vendre ses remèdes, il a intérêt, il y a un retour sur clientèle, il faut que ça fonctionne, sinon ça va pas. On pourrait s'arrêter là, sauf qu'évidemment, ce n'est pas aussi simple. L'idéal d'une médecine physio-mécanistique a subi deux sérieux revers au cours du XXe siècle. Je vais citer des noms en gras qui sont cités dans tous les articles sur les médicaments. Par exemple, la tolbutamine, médicament créé pour baisser la glycémie dans le diabète et non seulement inefficace mais dangereux. Médicament développé évidemment sur les connaissances physiologiques qu'on avait de l'époque du diabète, qu'on pensait quand même bien connaître, la fonction glycogénique du foie, tout ça, tout ça. Et ça s'est avéré, après étude, nocif pour la population. Le charlatan a disparu, entre guillemets, de la médecine moderne, mais son spectre, ou en tout cas son action, est toujours là. On est arrivé à ce constat, au constat de négativité du médicament, après 10 ans d'un essai clinique randomisé qui a fait date, le UGDP, pour ceux qui sont intéressés. On peut citer aussi plusieurs autres exemples, le rofocoxib, commercialisé sous le nom Vioxx, un médicament pour le cœur, retiré en 2004, la phénomorphine aussi de l'UGDP, le distilbène, etc. La liste des médicaments retirés est longue comme le bras, vous pouvez la consulter comme vous voulez. Il y a plein d'exemples qui montrent, ou même le Viagra par exemple, qu'on a développé pour les maladies du cœur et qui en fait a eu un tout autre destin qu'on connaît, mais qui était aussi quand même à la base fondé sur une hypothèse physiologique. Voilà. Ce que je veux illustrer, c'est le changement de cadre théorique qu'on a ici. On passe de l'explication mécanistique via la physiologie et la construction d'un remède sur des connaissances de laboratoire à une mise à l'épreuve de ces remèdes via les essais cliniques randomisés. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour être légitime, un remède doit prouver son efficacité clinique. En effet, un essai clinique randomisé fournit une preuve expérimentale sous la forme d'un résultat statistique. Alors, on pourrait discuter la méthodologie des essais cliniques randomisés, mais ça nécessite une discussion complètement à part, ça nécessite une thèse à part, ça nécessite... C'est... Mon point ici est d'indiquer simplement le type de résultats qu'ils fournissent par rapport aux explications mécanistiques. Pour faire court, au cas où les gens n'ont pas entendu ce mot, je ne sais jamais à quel type de public j'ai affaire. Alors, rapidement, un essai clinique randomisé, c'est on regroupe des gens ayant la même maladie, ça peut se discuter. On les sépare en deux groupes au hasard, c'est la randomisation. On teste le traitement cible, soit versus un placebo, soit versus un autre traitement, soit à les trois en même temps, soit avec un autre bras. Enfin voilà, il y a plein de méthodologies possibles. Il existe, et tout ça, en double aveugle, donc ni les médecins, enfin, ni l'équipe soignante, ni les patients ne savent ce qu'ils reçoivent. Il existe une multitude de choix méthodologiques, et encore une fois, ça c'est une discussion à part. Ce que je veux dire, c'est que les résultats sont statistiques et que l'explication physiopathologique sert à la limite à formuler une hypothèse explicative, mais elle ne décide plus de l'utilisation ou non du traitement. La preuve devient clinique, quel que soit le mécanisme à l'œuvre, c'est l'efficacité non pas sur un, mais un grand nombre de malades qui détermine la légitimité du traitement. Dès lors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la guérison devient en quelque sorte la preuve. L'efficacité clinique statistique, c'est-à-dire le nombre de guérisons, est ce qui compte pour le médicament ou pas. Ainsi, dans un sens, la distinction entre médecin et charlatan devient quelque peu obsolète puisque potentiellement toutes les thérapeutiques sont testables. Pour preuve, un essai clinique sur l'acupuncture pour le mal de dos chronique en 2007 qui a testé l'acupuncture versus la fausse acupuncture versus l'ibuprofène et le résultat était que l'acupuncture et la fausse acupuncture marchaient mieux que l'ibuprofène et les traitements classiques. Et donc, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais en tout cas ça marche, et donc les thérapeutes sont invités à indiquer l'acupuncture comme moyen de soulagement de leurs patients s'ils sont face à quelqu'un qui a un mal de dos chronique. Néanmoins, je force légèrement le trait quand je dis que potentiellement tout est testable, parce qu'un essai clinique randomisé, un ECR, en double aveugle, est quand même une contrainte assez forte. Par exemple, on ne peut pas tester les régimes en double aveugle, on ne peut pas tester les psychothérapies, n'importe quel type de psychothérapie en double aveugle, on ne peut pas tester les hypnoses en double aveugle, on ne peut pas tester les arrêts de tabac en double aveugle, etc., etc. Donc il y a tout un bon nombre de pratiques thérapeutiques qui se retrouvent exclues d'office des essais cliniques randomisés. Et c'est un peu là où je veux en venir. Il faut aussi un peu mitiger la joie d'avoir trouvé un outil parfait qu'est le CR et qui est mis en avant par l'Evidence-Based Medicine, par le fait qu'il est loin d'être exempt de problème. Je passe la liste de biais possibles considérables même, le coût d'un essai clinique randomisé qui est absolument astronomique, et qui n'est pas appliqué à tous les médicaments, que c'est pas systématique, on n'a pas testé les vieilles, on n'a pas testé toutes les vieilles substances, etc. etc. Pour donner une idée du relativisme possible, le premier essai clinique dans l'histoire des essais cliniques remonte souvent à 1948 avec Bradford Hill, qui teste la streptomycine contre la tuberculose. Et en 1992, arrive l'article fondateur du nouveau courant des biomédecines, l'Evidence-Based Medicine par Sackett, qui dit qu'il faudrait quand même faire plus de CR, et qu'il soit mieux fait, et que ça va pas du tout. Et donc du coup, de 48 à 92, on se demande un peu ce qui s'est passé entre les deux. Enfin voilà, ça aussi c'est une histoire à faire, etc. Cependant, on peut quand même rester, s'accorder sur le fait... Que c'est tout de même le gold standard de la pharmacologie moderne. On utilise comme ça. Tout ça pourquoi ? Tout ce parcours pourquoi ? Avec le BM, peut-on guérir pour les mauvaises raisons du coup ? Puisque c'est le BM, Evidence Based Medicine. Je l'ai pas dit tout à l'heure, non ? Si. Puisque c'est l'efficacité thérapeutique qui statue, il semblerait que non. Néanmoins, et là c'est mon détail, ce serait oublier un petit détail, ce contre quoi sont testées les thérapeutiques, c'est-à-dire le placebo et son corollaire, l'effet du placebo. Et l'ensemble de tout ça, l'effet placebo. C'est ce qui est appelé, dans le jargon, l'effet non spécifique. C'est ce qu'on essaye de mettre à l'écart dans les essais cliniques afin de se concentrer sur le traitement qui, lui, est spécifique. Si vous aviez lu le petit texte que j'avais envoyé, qui était absolument prétentieux, parce que je pensais résoudre la question quand je l'ai écrit, et en fait pas du tout, C'était en fait cette conclusion-là à laquelle j'arrivais. J'essayais de dire que l'EBM excluait l'effet placebo et qu'on pouvait quand même se poser la question de pourquoi l'effet placebo était exclu d'office des essais cliniques randomisés. Enfin, était le mouton noir des essais cliniques randomisés, de fait, parce que c'était la jauge pour juger la spécificité des médicaments. Sauf que j'ai essayé plein de fois d'expliquer ça sans faire l'histoire du processus que je viens de faire, et c'était absolument impossible. Donc j'ai fait une histoire rapide, un peu raccourcie, pour montrer que, d'un côté, oui, les ECR ne sont pas parfaits, mais quand même ils apportent quelque chose, et on n'est pas obligé de tomber forcément dans les analyses qui souvent, quand on est dans le placebo, je fais ma thèse sur l'effet placebo, et on est dans un combat tranché entre les partisans du placebo et les opposants du placebo. Là, j'ai voulu montrer que c'était un tout petit peu plus complexe que ça, qu'on ne pouvait pas rejeter l'histoire d'un bloc, que ça nous apporte quand même des choses, que voilà, ça vient de quelque part. Et dès lors, ce que j'appelle, si je peux faire un appel, ça serait une réévaluation du placebo en mode époqué, comme on dit en philosophie. Donc l'époqué, c'est la suspension du jugement. Et un travail qui a déjà été effectué, qui est en cours d'effectuation plutôt, dans, par exemple à Harvard, avec le PIPS, le programme In Placebo Studies. À Genève, il y a l'été dernier l'équivalent du PIPS qui s'est créé à l'Université de Genève. Donc on a un programme qui rassemble des médecins, des personnes de sciences humaines, etc., etc., pour essayer de maximiser cet effet placebo, pour essayer qui part du principe qu'il y a quand même des gens qui soignent, enfin il y a quand même un processus de guérison avec cet effet placebo, et que c'est dommage de laisser c'est dommage de laisser ça à part. Parce que c'est quand même pas cher et que on pourrait, si on arrive à le maximiser, on pourrait quand même résoudre la plupart des problèmes et que.
C'est la majorité des problèmes.
Oui, je finis, c'était. Il me reste trois phrases. Donc ce qu'on a fait, c'était quand même ce qu'il faut noter. C'est cette double inversion du rapport de force qui est assez intéressante. Donc d'abord, on part d'un cas pratique où la guérison est preuve, ensuite physiopathologique où elle ne l'est plus, et ensuite. Retour à la clinique où elle redevient preuve et voilà, et donc la part obscure, je pense qu'il faut essayer de creuser, suggestions, hypnose, tout ça, et je suis ouvert à la discussion, évidemment.
Ok, merci beaucoup. Donc on a 5 minutes de discussion, et si je peux me permettre, je vais faire quand même 2-3 remarques aussi. La première, je suis obligé de faire docteur, hein, toute la liste des médicaments que tu dis qui ont été retirés, ils ont été retirés pour effets secondaires graves, ils n'ont pas été retirés pour inefficacité.
Non.
Donc c'est quand même pas la même problématique. Oui. C'est vraiment la problématique des effets graves, inattendus, etc. Parfois cachés par le laboratoire pharmaceutique, comme l'histoire du Vioxx. C'est un fait. Des essais randomisés, tu dis pas d'essais randomisés sur les régimes, il y en a plein. Le régime méditerranéen, c'est paru dans le New England Journal of Medicine avec des résultats très solides sur la prévention cardiovasculaire. Il y a des essais randomisés pour l'arrêt du tabac, il y en a plein, y compris avec les cigarettes électroniques et autres, etc.
Le double aveugle n'est pas le standard obligatoire d'un essai clinique randomisé. C'est la Rolls-Royce des essais cliniques. On n'est pas obligé. En chirurgie, tu ne fais pas de double aveugle, mais tu fais quand même des essais cliniques.
Mais dans la hiérarchie de l'EBM, il est quand même placé au-dessus du.
Oui, c'est la Rolls-Royce, mais on n'utilise pas tous une Rolls-Royce.
Et puis des fois, c'est hypocrite, parce que tu as de tels effets secondaires du médicament que tu vois tout de suite qui est sous placebo ou qui est sous médicament.
Ça, c'est une autre question.
Le mec a des plaques d'examen.
Ça s'arrête tout de suite. Mais ça s'arrête tout de suite.
Ensuite, il y avait la question de l'essai randomisé comme régime de preuve, c'est-à-dire finalement, la guérison, enfin en tout cas la supériorité par rapport au placebo, devient le système de preuve. Et alors je ne sais pas si tu as été amené à lire le bouquin sur le placebo qui avait été fait par des prédécesseurs là, à Lyon là, il y a quelques années, où moi j'avais fait un chapitre où je m'étais intéressé à l'histoire des essais randomisés de la prière à distance, pour les malades en soins intensifs.
Ça marche pas trop, mais ça existe.
Je m'étais surtout intéressé à toutes les discussions qui avaient eu lieu dans les revues, à la suite de la publication de ces articles, etc. Et quand même, une des choses qui revenait très souvent, c'était de dire, au fond quand même, vous ne pouvez pas monter un essai comme ça si vous n'avez pas derrière un espèce de rationnel. Et dans le BMJ, il y avait donc le rationnel comptait quand même beaucoup dans les critiques méthodologiques faites. il y avait eu une espèce d'article, un absurde de fait dans le BMJ, prospectivement, sur l'astrologie, qui disait c'est des gens qui sont déjà morts, on va le tirer au sort pour voir ceux qui sont morts ou vivants d'une histoire grave autrefois.
Selon qu'ils soient vierges ou non.
C'est une espèce de truc complètement paradoxal qui tendait à montrer ça. Donc le rationnel compte, et puis après il y avait toute cette question évidemment sur la prière, on pourrait en parler des heures. Enfin, au bout du compte, les gens disaient qu'est-ce que vous voulez tester au fond dans cet essai, c'est l'existence de Dieu au fond. Ensuite, il y a les problèmes méthodologiques. Comment on pouvait convaincre un groupe de gens croyants qui allaient prier pour d'autres, qu'ils allaient prier, faire semblant de prier? Tu imagines ce que ça peut vouloir dire, faire semblant de prier pour un groupe de patients alors qu'on est quelqu'un qui pense qu'on va pouvoir guérir les gens grâce à la prière. Donc il y a les problèmes méthodologiques qui vont avec, évidemment. Et puis le dernier point, c'est quand même que moi je trouve que comme l'hypnose, le placebo réintègre, évidemment on est complètement d'accord, dès lors qu'on est soignant sur l'idée que on éduque tous les étudiants en médecine sur le fait que placebo c'est zéro et que ne vaut que quelque chose qui est au-delà. Mais dans la pratique, évidemment que c'est tout autre chose et qu'au contraire, moi j'essaye de montrer à tous mes étudiants que maximiser l'effet placebo, c'est ça, faire le docteur. Sauf qu'évidemment, c'est pas exactement ce qui traîne dans les études de médecine. Hein. C'est pas le credo. Voilà, Philippe a des trucs à dire.
Oui, non, sur l'effet placebo, là, je pense justement que les essais cliniques sont bâtis pour tester, pour évaluer l'efficacité supplémentaire qu'apporte le médicament par rapport à un effet placebo. C'est pas du tout, nier l'effet placebo. C'est au contraire, il y a un seuil de guérison, alors naturel, pas naturel, lié au soignant qui a une bonne image et qui raconte de belles histoires et qui arrive à convaincre ses malades, lié à ce qu'on veut, à l'imposition des mains, j'en sais rien. Mais il y a un effet docteur ou croyance du docteur en son efficacité, ça existe aussi. Il y a eu de très beaux exemples décrits sur des médecins croyant qu'un médicament était efficace parce qu'ils ont vu une guérison d'un malade. Donc ils le prescrivent largue à main nue pendant des mois et des mois, tout content, et ils ont des résultats fantastiques jusqu'au jour où ils revoient le malade initial et se rendent compte qu'il n'a jamais pris le médicament. Je dirais que d'un seul coup, merde, moi j'y croyais là, à ce truc-là. Donc il y a l'effet médecin, il y a l'effet placebo, mais tout ça justement c'est évalué dans un essai clinique, puisque c'est ce bruit de fond, entre guillemets, qui est bien utile. Donner de l'eau sucrée en expliquant que ça va te soigner tes maux de tête, ça marche très très bien avec certains patients. Donc c'est bien ça qu'on évalue avec les essais cliniques. C'est l'apport supplémentaire.
Oui, sauf qu'on peut essayer de mettre le focus sur justement le placebo. Parce que là, ça ne met quand même pas le focus, les essais randomisés contre placebo, mais fait le focus sur le médicament.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Pas du tout
bien
sur l'effet placebo. Or, il y a quand même effectivement.
Enfin, il y a la moitié de la pharmacopée qu'on pourrait gérer.
Qui sont très intéressantes sur, par exemple, études placebo contre rien. Mais vraiment rien.
C'est pas mal contre rien. Ah, c'est pas mal ça.
Ben si, il y en a.
Mais ça marche. Mais ça marche très bien.
Et d'autre part, dans le procédé de validation, il y a aussi toutes les neurosciences qui sont convoquées, et en particulier, là encore, l'imagerie fonctionnelle, en particulier pour
sur la douleur, ça doit être parfait, ça.
Pour expliquer, ou les endorphines pour les effets placebo.
Placebo contre rien dans la douleur, ça doit être parfait.
Mais même
vous expliquer. Quelques minutes, quelques questions.
Oui. Moi, c'est juste une petite remarque sur le. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un intérêt à travailler sur le placebo en tant que sujet de sciences sociales, mais il faut savoir quand même que dans les essais cliniques, le placebo, c'est un outil pour autre chose, c'est-à-dire pour répliquer ce qu'on a dit, c'est pour étudier l'efficacité supplémentaire du traitement. Ce qui veut dire que maintenant, on utilise de moins en moins le placebo dans les essais cliniques, parce que le but du jeu, c'est pas efficacité du médicament contre rien, c'est efficacité du nouveau médicament contre l'ancien. Et en effet, et puis en plus, il y a tout un jeu des labos qui disent « Ah mais non, mais nous on voudrait bien faire des essais sur placebo. » Évidemment, parce que c'est beaucoup plus facile à prouver son efficacité, donc le droit au remboursement pour un médicament par rapport à rien, que ce qui est vraiment intéressant pour un patient et pour un système de santé, de voir si la nouvelle molécule qu'on va nous vendre très cher et qu'on veut rembourser, est-ce qu'elle a un vrai bénéfice thérapeutique par rapport au autre système précédent. Et ensuite, il y a un deuxième problème qui est la éthique, c'est que dans les essais cliniques, les patients qui sont malades et à qui on dit bon, on va vous lancer dans un essai expérimental, ils n'ont pas du tout envie de se tamper le placebo. Parce que s'ils rentrent dans le jeu des essais cliniques, avec parfois des espoirs un peu pipotés si c'est un essai de phase 1, mais peu importe, c'est pas pour qu'on leur dise bravo, vous avez franchi le pas, mais 1 sur 2, ça ne changera rien parce que vous n'aurez rien. Et donc les commissions d'éthique maintenant sur les essais cliniques grognent de plus en plus quand on a une comparaison effet du médicament contre placebo, parce que c'est considéré comme non éthique.
Oui, en parfois quand il existe une molécule, parfois dans les maladies rares, il y a
quand il n'existe pas de molécule, c'est pas sure. C'est éthique.
Hein. Il y a plusieurs choses. Déjà, ça sur ce point-là, il y a Jeremy Howick qui a écrit, le livre Evidence Based Medicine et qui parle longuement du problème du placebo et du placebo dans les essais cliniques randomisés. Il faut déjà bien se rendre compte que on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de définition commune de ce qu'est un placebo. On va dire que c'est une matière inactive, ça ne marche pas. Parce que on donne, si on donne des pilules de sucre à un diabétique, ça ne peut pas. Voilà, donc ça va changer à chaque fois. Il y a une magnifique conférence qui dure 20 minutes où il dit, vous pensez à une définition du placebo et il les fait toutes. Enfin, j'ai pas vu quelqu'un qui s'est pas fait démonter sa propre définition avec ça. Et donc il faut bien quand même se rendre compte que on fait comme si on connaissait alors qu'en fait on connaît même pas la définition.
Juste un petit commentaire sur le placebo, justement, ça renvoie, c'est pas moi qui le fais, c'est René Dubos, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui dit notre médecine scientifique sera réellement une médecine scientifique le jour où elle saura ce qui se passe avec le placebo.
Oui, enfin, effectivement, déjà, le placebo, il faut bien aller au voir le côté très hétérogène des situations placebo et de ce qu'on met dedans. Effectivement, on peut y remplir tout, la capacité de la nature à guérir, c'est tout. Non, mais ça, c'est probablement très, trop vague, et il faut aller dans le détail. Et puis, comment c'est opérationnalisé, dans quel objectif, dans quelle étude, par exemple, ou pas. Oui, pardon.
Oui, moi, je voulais juste demander une précision. Par rapport au concept de placebo, vous parlez de placebo en tant que guérison spontanée, même auto-guérison liée par exemple au changement de pratique alimentaire, au changement de n'importe quelle habitude quotidienne. Donc le placebo, ça peut être applicable aussi à tout simplement un changement d'habitude que les patients décident de faire. Ou les placebos dont vous parliez, c'est un placebo toujours lié à la prescription médicale ou en relation spécifique avec un soignant. Parce que je pense que ça change.
Il y a trois choses, du coup, j'ai essayé de le faire très rapidement, mais j'ai dû le faire trop vite. Il faut bien avoir en tête le placebo, l'effet du placebo et l'effet placebo, qui sont trois choses complètement distinctes. L'effet placebo est un espèce de patchwork tapis sur lequel on met tout. On met la RMP, la relation médecin-patient, on met l'effet Hawthorne, on met la régression à la moyenne, on met le cours naturel de la maladie, etc., etc. On met les changements de régime. Et ça, dans ce cas-là, c'est une définition extra large, qui existe, de l'effet placebo. Et du coup, ce que vous dites, ça peut être non médical. Ça peut être un effet placebo auto-déclenché, etc. Moi, je suis pour une définition plus stricte, qu'on n'a pas du tout, du coup. Parce que vu qu'on ne sait pas ce que c'est un placebo, on a du mal de savoir ce que c'est l'effet du placebo. Mais c'est autre chose. Et j'avais un autre truc, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, tout à l'heure, pour les essais cliniques, quand je disais c'est discrédit, c'est pas la volonté de l'essai clinique de discréditer, c'est juste que c'est un corollaire, du coup, c'est ce sur quoi on jauge, donc forcément, c'est ce qui sera déjugé par rapport à ce qui est jugé. Oui, quand ça marche ou pas ça marche.
Dernière petite question.
Et oui, justement là-dessus, en fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est cette idée, pourquoi en fait finalement le placebo est vu si négativement, effectivement, parce que c'est quand même construit historiquement comme quelque chose de placé en négatif, en fait, à chaque fois. C'est toujours, moi je vais sur les médecines non conventionnelles, et c'est toujours... Apporter, c'est ce qu'on dit, bon voilà, ça, cette technique, elle ne marche pas, c'est de l'effet placebo, c'est toujours quand même présenté par les médecins de manière négative. Donc je trouve ça intéressant de questionner ça. Et vous parliez tout à l'heure des essais sur l'acupuncture. Donc effectivement, il y a des essais sur l'acupuncture qui sont utilisés justement comme preuve, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça n'exclut pas non plus aussi. Ce que je veux dire, c'est que ce type d'essai exclut forcément tout le système médical de la médecine chinoise, parce que déjà le fait de choisir une maladie, de répondre aux critères de l'essai, en fait déjà on n'est plus du tout dans cette médecine en fait, qui justement soit entier, je ne rentre pas dans le détail. Donc ça pose quand même des questions sur ça aussi.
Ce fil conducteur là, c'est ce fil conducteur de la rationalité, de l'impératif de rationalité. Et et de cette espèce de quand on fait une histoire rapide de la médecine, de cette espèce de besoin de dire ce que je fais est rationnel, donc si c'est pas expliqué, sinon c'est placebo quoi, et donc placebo c'est en dessous, parce que moi ce que je fais c'est mieux que le placebo, et en réalité oui ça peut être mieux, et effectivement sur l'acupuncture et surtout les tests, les essais cliniques essayent de se mettre pour absorber d'autres formes de médecine. On est vraiment dans une logique pragmatique où on adapte la pratique, mais on n'adopte en aucun cas le système de rationalité qui est derrière. Le chi, tout ça, c'est pas même peut-être Capshut, qui est le directeur du PIPS, du programme In Placebo Study à Harvard, qui est le premier à avoir fait ce genre d'études-là, fait de l'acupuncture. Mais il le dit clairement, il le fait parce que ça marche, il sait pas pourquoi ça marche, mais il le fait parce que ça marche. Mais du coup,
il y a quand même un partage qui s'installe entre des gens qui font par exemple des thérapies alternatives et qui veulent passer par le régime de preuve qui est devenu la preuve formelle, l'entrée possible dans la biomédecine, ce qui est l'essai randomisé. Et puis ceux qui s'y refusent pour différentes raisons, qui sont souvent des bonnes raisons, que la pratique est plus complexe, que faire de l'acupuncture dans le cadre d'une médecine chinoise traditionnelle, c'est pas faire de l'acupuncture pour des malades qui ont tous mal au dos de la même façon et avec les mêmes points, etc. Donc il y a une espèce quand même d'hégémonisme, et il y a des revues entières d'essais randomisés. Maintenant, il y a des revues spécialisées dans les essais randomisés de médecine alternative. Il y a des revues au comité de lecture, il y en a des.
Comme Alternative and Complementary Medicine. Ouais. Ouais. C'est une revue avec un impact factor à 3 ou 4.
Ouais. 3 ou 4
non, c'est
d'ailleurs un nouveau mode de légitimité pour cette pratique-là, en fait. Vous n'avez pas avant.
Oui, mais je pense qu'il y aura des mouvements de résistance à l'intérieur des praticiens anti. Avant, c'était une résistance un peu de principe. On ne peut pas étudier de cette façon-là. Maintenant, ça sera une espèce de résistance idéologique, à mon avis, différente, qui est « c'est plus compliqué que ça. Avec vos tests, vous ne montrez rien. Avec votre essai randomisé, vous ne prouvez rien. Et c'est ailleurs qu'il faudra chercher les causes et les raisons de l'efficacité ou mesurer même l'efficacité. » Bon, je suis désolé, on est obligé de passer aussi à la dernière conclusion. Enfin, obligé, non, ça fait plaisir.
C'est vraiment
on est obligé de passer et presque de raccourcir la communication de l'UNN si on veut finir dans les temps, mais quand même, on n'a pas le temps de discuter.